Vous écoutez
RMC. Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
C'est parti, le réalisateur a loupé le départ de Paul Seixas, mais Maria ne l'a pas loupé. Elle part dans le sillage de notre prodige français. Le grand favori de ce contre-la-montre, il est deuxième au classement général. Il part à l'instant même avec le maillot de champion du monde du chrono, Remco Evenepoel. Le maillot jaune du Tour de France, sans doute futur vainqueur pour la cinquième fois, Tadej Pogacar qui s'élance.
Le fessier de Remco Evenepoel, c'est pas que je regarde les fesses des garçons, mais le fessier, droit. C'est du costaud, c'est du solide, c'est du béton armé. Hein.
22 secondes avant sur Isaac Del Toro. La machine belge est en route. Tadej Pogacar sera en retard sur Remco Evenepoel de 10 secondes.
Très intéressant ce qui se passe actuellement. Isaac Del Toro qui est en train de passer au temps intermédiaire numéro 2 dans la même seconde que Paul Seixas. Donc ça se joue à rien. Remco Evenepoel est en train de se diriger vers une victoire d'étape. Il va mettre 56 secondes à Mathias Kelmose. 56 secondes.
1 minute 06 sur Paul Seixas et Isaac Del Toro.
Oui, attention. Là, c'est un temps très important aussi dans ce classement général pour l'arrivée sur les Champs-Élysées. Il est en train de faire vraiment une opération incroyable.
Attention, la chute d'un des coureurs.
La chute de Lipovitz.
Et il s'est fait mal. Il est au sol. Florian Lipovitz.
C'est à l'arrivée.
On a eu peur. C'est Juan Ayuso derrière la ligne. Il s'est donné tellement qu'il est allongé au sol. On s'est inquiété. Mais non. Allez, les derniers efforts pour Paul Seixas qui n'aura pas la victoire d'étape mais qui aura réalisé un très beau chrono. Les Belges sont en train de nous mettre le seum. Ils alignent vraiment les victoires. Remco Evenepoel vient de passer la ligne et très certainement remporter ce chrono. Tadej Pogacar perd de 28 secondes. Tadej Pogacar donc qui sera deuxième. La joie de Remco Evenepoel aujourd'hui.
Seixas à nouveau quatrième. Il est abonné à cette place de quatrième. Mais on espère évidemment que ça ne sera pas le cas dans quelques jours du côté des Champs-Élysées.
RMC, l'After Tour.
Ah, c'était encore à y perdre notre latin et à y perdre la tête, mais c'est bon, on est retombé sur nos pieds.
Que tu l'as perdu la
désormais,
tête.
Toute l'équipe de l'After Tour est là. À ton nom, nos consultants, Richard Virenque, Jérôme Coppel et Jérôme Pinault. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir à tous.
Et Christophe Cessieux. Salut, Christophe.
Bonsoir.
Le chrono, ça se joue à une seconde hein, parfois. Donc, si vous nous avez pas suivi cet après-midi, on rappelle.
Vous avez eu tort de ne pas nous suivre parce qu'on s'est régalé. C'était un bonheur cet après-midi, ce contre-la-montre. Moi, j'adore les chronos. Je suis comme Jérôme. Non, mais c'est vrai.
C'est vrai.
J'adore parce que il se passe plein de choses. On voit vraiment la puissance des garçons et il y en a qui coincent. Alors, celui qui n'a pas coincé, c'est évidemment Remco Evenepoel qui remporte là sa deuxième étape consécutive après celle de dimanche au plateau de Solaison. Il s'impose avec 28 secondes d'avance sur le maillot jaune Tadej Pogacar. C'est mieux que l'année dernière. Il s'était imposé lors du chrono, mais il y avait moins d'écart. Le troisième, c'est la grosse surprise du jour. C'est Mathias Kelmose, le coureur danois de la formation Lidl Trek, qui termine avec un retard d'1 minute 04. Paul Seixas, abonné donc à la quatrième place, comme le disait Pierre-Yves, termine à 1:16, soit 5 secondes de mieux que Isaac Del Toro, le grand rival de Polo sur ce Tour de France. Et du coup, les deux hommes ne se sont plus séparés que de 20 secondes, à la fois pour le podium du Tour de France, hein, Del Toro est toujours troisième, et pour le maillot blanc, là aussi, même écart. Le maillot jaune reste évidemment sur les épaules de Tadej Pogacar. Il avait 5 minutes d'avance ce matin, il n'en a plus que 4:32 ce soir. Del Toro est troisième à 6:51. Paul Seixas, quatrième, donc à 7 minutes 11, soit 20 secondes derrière. Ayuso, lui, a dévissé. Il est cinquième au classement général, mais plus de 2 minutes derrière Seixas. Et Kelmose revient à 1 minute de son équipier Ayuso. Lenny Martinez est toujours dans le coup. Il profite de l'abandon de Lipovitz pour gagner une place. Il est ce soir 7e à 12 minutes 50. Et un autre Français est dans le top 10, c'est Jordan Gegat, 9e à 22:50 de Tadej Pogacar.
Richard Virenque, je te fais la passe pour lancer notre premier débat. Evenepoel, donc, qui s'impose aujourd'hui. Est-ce que, selon toi, connaissant la fin de ce Tour de France avec des étapes difficiles et parfois les limites de Remco dans cet exercice en très haute montagne et en même temps sa forme actuelle, est-ce que, selon toi, il peut finir à la deuxième place dimanche ?
Il y a rien du tout de sûr. Hein. Aujourd'hui, il est deuxième du classement général. Certes, il a gagné deux étapes, mais le Tour est tellement difficile à partir de là, les prochains jours, que ça va être très compliqué. Vous imaginez, il y a une étape, l'étape de l'Alpe d'Huez, il y a plus de 5000 mètres de dénivelé. 5000 mètres. Donc, s'il n'y a rien qui est acquis, on va dire même que pour, même Pogacar, il doit se dire, waouh, on a un sacré week-end, parce que il peut se passer, il peut tout se passer. Regardez, une chute, on peut tomber malade, on peut avoir une défaillance physique. Donc, je pense que pour tous ceux du classement général, tout est incertain. Même s'il y a des places acquises, même s'il va y avoir des duels, comme on va dire avec Paul Sexas, tout reste indécis parce que les organisateurs ont fait ça bien, on va dire. Ils ont mis beaucoup de difficultés dans ces quatre dernières étapes et il y a de quoi faire.
Jérôme Pinot, l'étape de samedi notamment, elle est terrible.
Oui,
et pour Remco, c'est peut-être là le point le plus sensible.
Bah, l'étape de samedi, c'est simple, elle fait un peu plus de 175 km. Il y a 75 km de montée. 75 km dont environ une soixantaine à plus de 7%. Ça veut dire qu'en plus, on va passer trois fois à plus de 2000. Et dans cet exercice-là, il n'y a pas un coureur qui est aujourd'hui capable de dire s'il va pas péter, s'il va être bien, si
par Tadaï.
Même pas. Mais il a telle marge que lui, il peut se permettre même d'être un petit peu moins bien. Mais tous les coureurs du classement général qui sont aujourd'hui dans un mouchoir de poche pour la troisième place notamment, parce que Remco a pris de l'avance, mais même à partir de Remco jusqu'au 6-7e, si tu es pas bien ce jour-là, c'est pas 5 minutes que tu prends, c'est 20. Donc personne n'est serein et tout le monde s'attend à la bataille finale sur ces étapes-là. Il faudra pas être piégé avant. Il y a une étape vers Orcières-Merlette notamment, il faudra pas se faire piéger. Celle de Gap, faut pas avoir mis les deux pieds sur la même pédale parce que tu pars dès le départ, c'est en bosse et là faut pouvoir récupérer et donc cette étape va être difficile. Mais jusqu'à samedi, personne n'est capable de dire ce qui va se passer.
Jérôme Coppel, alors évidemment, c'est ta journée, t'as pris beaucoup de plaisir, on est dans un magnifique département, il y a
incroyable.
Là,
du monde partout.
J'ai un panorama, c'est vrai, fantastique, c'est vrai, c'est magnifique. Au-delà de ça, Remco, il t'a pas surpris, j'imagine, même s'il fait un temps canon. Comment tu l'imagines sur les jours à venir?
Ben, il m'a quand même un peu surpris. Honnêtement, aujourd'hui, même lui, même en chrono, il arrive encore à me surprendre. Je pensais pas qu'il allait faire de tels écarts. Alors, avec Tadej Pogacar, c'est un peu à pondérer parce que Tadej Pogacar, t'es pas dans le même état d'esprit de la victoire d'étape, reprendre du temps, etc. Mais même par rapport aux autres, même par rapport à Sexas, Del Toro, etc. Franchement, il m'a impressionné aujourd'hui. Maintenant, comme le dit GG, hein, l'étape de samedi, elle est vraiment très très dure. Lui, on sait que son un des problèmes qu'il a, peut-être qu'il s'est réglé et que tout va bien se passer, mais c'est l'enchaînement des cols et de la haute altitude. Samedi, c'est tout en 1500 et 2200 mètres d'altitude à peu près. Donc là, on va voir si vraiment il a progressé là-dessus, Remco Evenepoel. La chance, entre guillemets, qu'il a ou qu'il s'est donné lui-même, c'est que le classement général pour les deux premières places sont bien figés. Donc Tadej Pogacar premier, lui est bien installé à la deuxième place. Et avec l'étape du plateau de Solaison, maintenant ça va être un peu une course d'attente pour le podium. C'est-à-dire lui, il a dit clairement dans son interview, la victoire finale, j'y crois pas du tout. Et on a bien compris que Tadej Pogacar attend Del Toro. Donc en fait, le podium, plus ou moins, il est pas figé, mais il y aura pas de grosses manœuvres de Pogacar s'il doit attendre Del Toro, etc. Ça va venir peut-être de derrière, de Paul Sexas, d'Ayuso, qui a déjà perdu beaucoup de choses. Donc c'est peut-être eux qui vont mettre le bazar. Mais finalement, Remco Evenepoel, si UAE et Tadej Pogacar gardent la même stratégie que lors de l'arrivée à Solaison, bah c'est tout bénef pour lui, hein, parce que c'est une allure, l'allure de Del Toro, et en dessous de l'allure limite de Remco Evenepoel. Donc pour l'instant, c'est bien.
Tu évoquais ses réponses justement après la ligne. On l'écoute, Remco Evenepoel, évidemment satisfait de la performance du jour.
Pour le moment, je suis très content où je suis. Mon coach, il a vraiment eu la confiance en moi pour me préparer calmement. Et ouais, on avait vraiment l'objectif d'être dans la meilleure forme possible depuis les premières étapes de montagne. Donc voilà, je suis content où je suis, c'est bien. Il y a encore quelques étapes très très dures qui arrivent, c'est très beau que je gagne deux fois d'affilée. Mais là, je dois me concentrer sur garder ma deuxième place et me battre pour cela, parce que pour moi, c'est déjà un rêve d'être où je suis sur la deuxième place et deux victoires d'étape. C'est quelque chose que je rêvais depuis que j'étais petit, que j'ai commencé la course, très heureux où je suis, et faut continuer à travailler.
Christophe, c'est un Remco Evenepoel tout sourire, très affûté, en pleine forme, qui vit un Tour de France formidable, il le dit lui-même. Mais on sent poindre le doute, lui aussi, sur cette semaine à venir.
Ah bah oui, ce que disait Jérôme tout à l'heure. Évidemment, tout le monde est très inquiet de ce qui va se passer avec ces étapes terribles, les deux étapes de l'Alpe d'Huez. Il sait que par le passé, il a coincé dans ces moments-là. Donc, évidemment, il se demande comment il va être mangé, à quelle sauce il va être mangé dans ces étapes-là. Mais c'est vrai qu'on le sent en totale sérénité par rapport, rappelez-vous, de l'année dernière. Bon, il avait abandonné le tour, mais le début de tour avait été catastrophique. Il y a deux ans, il essayait de s'accrocher, mais il était chaque fois battu par Vingegaard et Pogacar. Là, on le sent d'une sérénité totale.
Et il est prêt.
Et il est prêt. Et il est affûté comme jamais.
Je pense que c'est un coureur, comme on l'a dit, il est spécialiste du chrono. Et Gégé nous disait tout à l'heure, ils ont besoin de repères, d'avoir ce cadre-là. Mmh. Et lui, quoi qu'il arrive, il sait qu'il est prêt. Il a tout fait comme il fallait. L'année dernière, il avait chuté. Rappelez-vous, il a eu cet accident qui a gâché sa préparation. C'est un gros moteur. Il a besoin de faire des kilomètres. Il a besoin de bosser beaucoup pour être en forme et être rassuré. Je pense pas que ce soit le garçon le plus sûr de lui.
Non.
Il dégage quelque chose d'autre, mais il a certainement besoin d'être souvent rassuré. Et je pense que là, il sait qu'il a fait les choses bien.
Ouais, bah c'est pour ça qu'il est dangereux. Parce qu'un coureur, quand tu sais, peu importe le résultat, quand tu sais à l'entraînement que tu as tout fait, tu pouvais rien faire de plus. T'es pas tombé malade. T'as pu rentrer tous les entraînements que tu voulais. T'as plus rien à perdre. Après, t'as tout fait. Même si ça marche pas, tu pouvais pas faire plus avant d'arriver au tour. Il a déjà gagné ces deux étapes. Avant, comme tu dis, il courait après la forme. Il visait son premier podium. Donc, il essayait de s'accrocher. Il y avait la pression dans une équipe Quickstep à l'époque qui était pas vraiment orientée classement général, etc. Et un mec comme lui, on parle souvent de son ego, etc., mais qui est en confiance dans son équipe, qui sait qu'il a tout fait avant. Il a rien à perdre. Il a déjà gagné deux étapes. Ça, c'est un mec dangereux.
Mais si ça marche, ce sera peut-être la porte ouverte aux autres coureurs du peloton de se dire, on fait plus de courses à partir du mois d'avril, quoi. Hein, parce que lui, on rappelle que il a.
Non, mais ce qui marche pour les uns,
ouais.
Christophe,
ouais, ouais,
pas
ouais,
forcément bon, pour les autres. Parce que regarde,
tu prends moins de risques.
Il le dit rapidement, mais il le dit au micro au Ciné International que c'est peut-être le manque de compétition qui lui a manqué en début de tour. Mais si en début de tour, il y a une étape de montagne beaucoup plus difficile que ce qu'on a eu jusque-là, il peut pas se permettre d'arriver en manque de rythme parce qu'il aurait, il a répété, parce que vers le Lioran, il pète. Il y a une étape.
Gavarnie,
il est pas saignant. Il peut pas se permettre de passer à travers sur une étape, notamment en début de tour, lorsque le tour part. Et que c'est très difficile, il faut être prêt de suite. Donc là, la préparation,
ouais, effectivement, parfaite. Forme, maintenant, là, hein.
La dernière des choses, c'est que samedi, on va passer déjà l'Alpe d'Huez. Et croyez-moi que c'est 5-6 coureurs qui se battent pour le classement général. Si dans l'Alpe d'Huez, ils pétouillent, le lendemain, ils repassent au même endroit. Et ça, dans la tête d'un coureur, c'est terrible. De retourner là où on a coincé, c'est jamais facile.
On en reparlera tout à l'heure du mental, ça sera avec Paul Sexas. Les planètes sont alignées, on a le sentiment pour Remco Evenepoel. On passe à notre rubrique carton, Jérôme, parce que il y a aussi un élément important qui s'est joué aujourd'hui dans cette équipe. Tout de suite, le carton.
RMC, l'After Tour.
Le carton.
Carton, quelle couleur, Jérôme ?
Alors, il va être orange, mais il va être contre moi, le carton. Le retourne contre moi.
Un carton, ça, on l'attendait pas.
Voilà, je l'attendais pas. Je vais le mettre contre moi. Et justement, ça va concerner Remco Evenepoel et l'ensemble de son équipe. Je leur ai mis, il y a quelques jours, la semaine dernière, un carton orange ou rouge, je sais plus, pour dire... Ça va mal se passer dans cette équipe. Je sentais pas la cohabitation Lipovic, Remco Evenepoel. On a dit on met pas deux coqs dans la même basse-cour. Remco, c'est un mal alpha, etc. Ça sentait la poudre. Je me disais qu'ils allaient se marcher dessus et que la stratégie était pas claire dans cette équipe. Dimanche, je reviens à dimanche au plateau de Solaison. Quand il y a la chute de Jonas Vingegaard, le peloton est un peu désorienté. Il y a Tom Pidcock qui est devant. C'est Red Bull Bora qui prend ses responsabilités, qui roule derrière tous les équipiers au boulot et les leaders qui répondent présents. Remco qui va gagner l'étape. Lipovic qui perd un peu de temps mais qui arrive avec Paul Sexas. Et c'est ça qu'on attend d'une grande équipe sur le tour, d'une équipe de la taille de Red Bull Bora avec des coureurs comme Lipovic et Remco Evenepoel. Donc faut savoir, nous on a des convictions, faut savoir dire quand on s'est trompé, je me suis gouré, j'enlève mon carton, je le prends pour moi cette fois, bravo à cette équipe-là. Et aujourd'hui, au-delà du résultat de Remco Evenepoel, c'était plus ou moins attendu qu'il allait gagner. On était avec Maria dans les paddocks. On a vu, on était longtemps devant le bus Red Bull Bora. On a vu comment ils ont travaillé. C'est la seule équipe que j'ai vue quand j'ai fait le tour sur la moto à avoir deux voitures posées sur le parcours pour faire des temps intermédiaires en plus. Donc ils ont vraiment très bien travaillé. Ils travaillent très bien. C'est pour ça que je retire tout ce que j'ai dit avant. C'est vraiment très bien ce qu'ils sont en train de faire. Malheureusement pour eux, aujourd'hui on parlait de la stratégie avec Lipovitz et Remco Evenepoel, bah Lipovitz a abandonné sur chute aujourd'hui. C'est quand même un mec qui est pas spectaculaire mais qui est toujours là, qui pète jamais vraiment Lipovitz, et peu importe après la stratégie, elle allait s'éclaircir ce soir, peu importe le résultat de Lipovitz, la stratégie allait être plus claire ce soir et Lipovitz aurait pu être d'un grand soutien à Remco Evenepoel. Alors il y a encore Jay Hindley, un ancien vainqueur de Grand Tour aussi, mais quand tu perds une carte comme Lipovitz, déjà mentalement, il l'a dit, Remco Evenepoel, c'est une victoire difficile à avaler, douce amère, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, parce que d'un côté, il se réjouit d'avoir gagné, d'avoir repris du temps à ses adversaires, mais d'un autre côté, il sait qu'il perd le co-leader, et on va pas dire cette fois, parce que c'est pas vrai, on va pas dire à Remco d'un côté, il est content parce qu'il va avoir le leadership, pas du tout.
Ça va lui manquer.
Bien sûr, ça va lui manquer, et va falloir que cette équipe, à l'image de Visma Lease a Bike, alors ils ont un autre objectif, mais qu'elle arrive à se remobiliser dès demain, parce que demain, c'est pas une étape ultra importante, mais faudra être dans le coup dès le début.
Richard Viron, la perte de Florian Lipovitz pour cette équipe et pour Remco Evenepoel, même si on sait qu'avec quelques petites tensions, ça peut être un élément vraiment négatif.
C'est un élément positif pour tous les autres adversaires. Tous ont permis de remonter une place au classement général. Vous imaginez, en deux jours, on enlève deux grands favoris du Tour, que ça soit Vingegaard et Lipovic, out, alors que c'est des coureurs qui sont là pour le podium. Donc c'est incroyable. Pour l'équipe Bora, on sentait, on va dire, une rivalité, on va dire, entre deux coureurs. Il est clair qu'il y a eu l'ascendant vraiment qui s'est marqué dans l'étape de montagne avec Renko, pour qu'il a montré comme quoi il avait la jambe au-dessus. Aujourd'hui, le chrono, c'était aussi normal qu'il soit dessus. Mais bon, voilà, maintenant, ils vont tous courir à fond pour lui. Donc je pense que l'équipe Bora avait deux atouts, maintenant ils en ont plus qu'un, et les adversaires, eh ben c'est leur jour de chance, parce que avoir un Lipovic en moins, c'est une ils se battent tous pour une place pour le classement, on va dire pour la cinquième, pour la troisième, pour la quatrième. Là il y a deux gars qui sont partis, donc c'est de bonnes nouvelles. Malheureusement il y en a qui partent au tapis comme ça, et c'est pas fini peut-être, parce que le Tour est piégeux encore dans les prochains jours. C'est pour ça qu'il faut être vigilant.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres, évidemment. Maria Azé nous a rejoint. Bonsoir, Maria.
Salut, Pierre. Salut, tout le monde.
Un contre-la-montre animé pour Maria aussi, qui a vécu de grandes frayeurs aujourd'hui.
Elle a failli chuter, ça arrive au motard aussi. Hein.
Mais elle n'a pas chuté, elle est toujours sur le Tour. Pas d'abandon pour Maria.
Non, pas d'abandon.
En revanche, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. On parlait de cette équipe à double tête chez Bora, qui n'a plus qu'une tête. Mais il y a une autre équipe qui se retrouve avec deux têtes. La performance de Mathias Kelmose sur ce chrono fait que on se demande qui est leader du côté de Lidl Trek, avec Juan Ayuso qui lui est passé à côté, Maria.
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la bataille entre Lipovitz et Evenepoel, mais celle qui se dessine là après ce contre-la-montre, c'est celle entre Kelmose et Juan Ayuso. L'Espagnol avait plus de 2 minutes d'avance sur son coéquipier avant le chrono du jour, mais Ayuso a fait un chrono catastrophique, vous en avez parlé, 15e à 2 minutes 22 de Remco Evenepoel, alors qu'il est censé normalement être plutôt adroit dans la discipline. À côté de ça, Mathias Kelmose, qui lui normalement est plutôt en dessous, a fait un chrono exceptionnel. Il termine 3e de l'étape à 1.04 de Remco, et il n'est plus qu'à 52 secondes de son coéquipier au classement général, 5e et 6e du classement général. Kelmose, c'est pas un mauvais client, hein, c'est un très bon grimpeur, il reste sur une très bonne saison, 2e de l'Amstel Gold Race, 5e de la Flèche Wallonne. Il n'a pas gagné cette saison, mais ça reste un très bon coureur. Il est tout à fait capable de bien figurer dans les dernières étapes, même si les étapes de l'Alpe d'Huez vont être un peu difficiles pour lui. Mais c'est vrai, quand on voit la forme de Juan Ayuso, on l'imagine bien craquer dans des étapes de fin de semaine. Et donc, possible que ce soir, dans la direction sportive de Lidl Trek, on commence à se dire, est-ce qu'on ne prendrait pas une carte de secours ?
Ouh là là, surtout quand on connaît toutes les qualités de coéquipier de Juan Ayuso, qui adore partager quand même le leadership, Jérôme Pinot, on peut imaginer que ce soir, chez Lidl Trek, ce soit un peu tendu, non ?
Bah, ça va être tendu, oui et non. Ayuso, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Ça fait, il l'a dit lui-même, pour être sur le podium du Tour, on ne doit pas avoir deux défaites comme je les ai subies. Il a subi une défaite pour lui dans sa tête, et c'est un fait à Solaison, et aujourd'hui encore dans le chrono. Je crois qu'aujourd'hui dans le chrono, là il a pris une grande claque derrière la tête, parce que en plus d'avoir fait un mauvais chrono, il a vu son coéquipier, collègue, pas ami à mon avis, de la même équipe, lui mettre une raclée. Et quand on s'appelle Ayuso et qu'on n'est pas capable de se mettre au service du plus grand coureur cycliste de tous les temps, moderne, allez, Tadej Pogacar, on va pas se mettre au service de Skelmoseu. Et la problématique, c'est que Skelmoseu, il a déjà un gros retard sur les autres. Même s'il venait à essayer d'avoir une stratégie offensive en plaçant un à l'avant, je vois pas pourquoi ça affolerait les autres. Skelmoseu, il a plus de 2 minutes 10 derrière Paul Sexas. Ils vont pouvoir se servir de ce collectif, peut-être pour une étape. Mais je pense qu'Ayuso, il a fait une amorce de serrage avant-hier. Aujourd'hui, il a montré que le moteur, il commençait à couiner. Et je serais pas étonné de le voir encore perdre du temps dans les étapes de montagne. Donc pour cette équipe Lidl Trek, il y a eu double objectif, d'un côté avec Pedersen, de l'autre côté avec Ayuso ou Skelmoseu, plutôt Ayuso qu'on a recruté en tant que leader. On est un peu en train de passer à côté quand même.